Hop, 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 juste un petit mot. Si vous avez raté le début, je vous invite à écouter le podcast depuis le premier épisode. Là, c'est le deuxième. Si vous avez oublié un petit peu de quoi ça parlait, c'est le moment de vous remettre au premier épisode, histoire d'être bien frais pour ce qui s'annonce ensuite. On va donc commencer le chapitre 2 et je vous propose pour cela de vous mettre bien, de vous mettre confortable et pourquoi pas de boire une petite...
Cerveza cristal. Cerveza cristal.
Biographie de Robert Grognon. De comptable à grand régent galactique. Écrit et réalisé par Jean-Noël Pierre. Chapitre 2. Comme précisé précédemment au grand régent, mes expériences en matière de collection mentale sont assez limitées. Hormis quelques remises à niveau régulièrement imposées par notre grand ordre scribal lors de grands séminaires, je n'ai que peu pratiqué cet exercice. Nous autres grands scribes sommes informés d'une chose cruciale. L'esprit d'un grand régent est à nul autre pareil. Libre à nous de nous lancer dans cet exercice assez intrusif, il faut le dire, mais si le grand régent y consent, l'expérience en est alors tout à fait singulière. La mémoire d'une personne est perçue par le grand scribe qui la consulte comme une simultanéité d'instantané de vie dans laquelle il s'enfonce. Choisissant un événement mémoriel, avec l'accord de la dite personne, celui-ci enveloppe alors l'explorateur, occultant ses sens qui sont submergés par ceux de l'explorer. Le grand scribe est alors à même de dérouler cet événement, de le figer ou de le faire repasser à l'envers. Mais la représentation de la mémoire d'un grand régent est bien plus raffinée, plus élégante qu'un maelstrom d'événements dont l'empilement pêle-mêle peut parfois décontenancer les novices. En effet, ce que je percevais était tout autre. Je vis ce qui semblait être un ciel blafard, sans nuages, un paysage mort, occulté par une brume épaisse à travers laquelle perçait un arbre de lumière, d'un bleu clair, si clair qu'il se rapprochait presque du blanc. Il était lumineux, mais pas aveuglant, car je n'étais ici qu'en esprit, accompagné d'un Robert Grognon bouche bée, tous deux avec des patins roses aux pieds, et entouré de cette brume épaisse qui semblait danser avec nos chevilles, pour les oublier tout aussitôt et ainsi reprendre son chemin aussi mystérieux que ne l'était son épaisseur duveteuse.
« Qu'est-ce que c'est que ce truc ?»
bégaya Robert Grognon. « Votre mémoire, grand régent.
« On avait dit Robert »
soupira-t-il d'un air presque absent, les yeux toujours fixés sur l'arbre de sa mémoire. « Oui, toutes mes excuses. C'est votre mémoire, Robert. » Il s'approcha, l'arbre le surplombant. En regardant de près, on pouvait remarquer que les branches de cet arbre se ramifiaient de plus en plus, jusqu'à être invisibles à l'œil nu. Ici, nulle écorce, mais des images étirées, enroulant chacune des branches, des instantanés de souvenirs, d'une précision temporelle si parfaite que l'on pouvait en regarder le déroulement juste en promenant son regard de bout en bout. J'invitai d'un geste Robert à observer. Pour chaque instantané que nous observions, il nous semblait que le souvenir s'agrandissait pour pouvoir nous envelopper.
« Oui, » dit-il rêveusement, « je me souviens de ça. Le pique-nique ?»
Il se perdit un moment dans la contemplation d'un souvenir, puis fronça les sourcils, interrogatif.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?»
me désignant une ramification bien spécifique du doigt.
« Ça, Robert, c'est la beauté de votre esprit.
C'est un des signes distinctifs qui indique que vous êtes un grand régent.
C'est-à-dire ?»
Le contexte.
Le contexte ?
Le contexte.
Le contexte !
Votre cerveau enregistre, comme pour beaucoup de formes de vie, un déroulé de votre existence. Mais vous, vous enregistrez plus que ça. Votre connexion avec l'univers est telle que vous enregistrez sans le savoir ce qui se passe dans votre périmètre, sur une période de temps assez étendue en fonction du souvenir. Il me regarda sans comprendre. Laissez-moi vous montrer. Et je l'amenai vers la cime de l'arbre, sans trop savoir comment, je dois vous avouer. De là, nous vîmes notre discussion sur la terrasse du beau pays. Prenant un embranchement, nous fûmes en mesure d'apercevoir les grands servants, discutant entre eux, quand bien même ces derniers étaient à une distance respectable de nous à ce moment. On pourrait par exemple s'immerger dans ce souvenir et entendre ce qu'ils disent.
« Mais non !»
Je vous assure que si. C'est ainsi que les grands régents sont, disons, câblés sur le monde qui les entoure. Et c'est du pain béni pour un grand scribe.
Et depuis quand j'ai ça dans le crâne?
Théoriquement, depuis la création de l'univers.
L'ingénieur?
L'ingénieur.
Donc vous le connaissez. Et pourquoi il fait ça?
Franchement, j'en ai aucune idée.
Bien, alors, votre enfance, donc. Voyons un peu si je peux trouver quelque chose sur vos parents, pour commencer.
Si ça vous va.
Attendez, quoi? Sur mes parents?
Oui, vous avez ça dans votre mémoire génétique, normalement. Est-ce que j'ai votre accord? N'oubliez pas, je ne vous force en rien, et si un souvenir ne vous plaît pas, je ne le prendrai pas en compte dans la biographie.
Robert me fixa du regard, puis regarda l'arbre.
Allez-y.
Nous nous baissâmes pour aller vers la base du tronc, qui grossissait au fur et à mesure que nous nous rapprochions de lui. Ou est-ce nous qui étions en train de rapetisser? Puis, sous le tronc, nous vîmes une racine. Nous allâmes à sa rencontre. Des images se précisèrent, s'agrandirent, nous enveloppèrent comme une couverture trop grande, et de là où nous étions, soudain conscients d'être les spectateurs d'un film, d'un événement qui se déroulait sur un bateau, ou plutôt non, sur... 2. Sur le ferry qui l'emmenait depuis l'île de Manhattan vers Staten Island, Roberto Grognon, celui qui allait devenir le père de Robert Grognon, regardait le fleuve Hudson, savourant un maigre rayon de soleil matinal, les mains emmitouflées bien agrippées à la rambarde en fer du bateau. Le temps était plutôt clément pour un mois de février et le soleil plus que bienvenu, surtout si l'on prend en compte la tempête de neige d'il y a 2 semaines. Le blizzard avait frappé plusieurs états de ce pays terran nommé États-Unis d'Amérique, paralysant les infrastructures sans quasiment discontinuer pendant presque 2 jours, faisant 100 de victimes et plusieurs milliers de blessés. 2 semaines plus tard, les températures n'avaient que peu évolué, mais la vie reprenait son cours. Roberto avait voyagé depuis Paris, en France, où il avait pris un vol depuis l'aéroport d'Orly. Il avait longuement économisé pour se payer un aller simple vers cette terre pleine de promesses qu'il fantasmait depuis tout petit. Il avait pris cette décision, celle de vivre ce que l'on appelait le rêve américain, et avait jeté son dévolu sur New York City, persuadé de faire carrière dans le monde du spectacle. Mais pour l'instant, il regardait surtout ses économies fondre à la différence de la neige constellée de saleté et de pollution qui ornait chacune des rues et grandes avenues de la cité autour aux 1000 fenêtres. Roberto Grognon cherchait un emploi. N'importe quoi pour ne pas dormir dehors et surtout pour ne pas retourner dans son pays natal, la France. Il ne souffrait l'idée de retourner dans sa petite bourgade française, les regards additionnés de toutes ses connaissances dont beaucoup n'avaient jamais quitté la ville de La Ferté-Saint-Mignon dont Roberto était originaire, fondu en un tribunal inquisitoire joyeusement prompt à le mettre face à son échec. La veille, étalé de tout son long sur un des canapés de la pièce commune de l'auberge de jeunesse dans laquelle il résidait, et lassé d'une semaine à courir à faire des auditions dans tout Manhattan, un arrondissement de New York City, Roberto feuilletait paresseusement un journal local gratuit, dont le modèle économique se basait sur un nombre incalculable d'encarts publicitaires vantant les performances pompeuses d'agents immobiliers ou d'avocats au rabais, le tout se taillant la part du lion avec la rubrique des petites annonces, notamment les offres d'emploi. L'offre que Roberto aperçut était somme toute séduisante compte tenu de sa situation financière dont l'adjectif « précaire » n'était désormais plus suffisant pour faire un état fidèle du bourbier dans lequel il se trouvait. La description du poste en question le laissait rêveur. Il s'agissait de s'occuper d'un dépôt-vente de vêtements d'occasion pour le compte d'une association locale. Le salaire était minime, mais le gîte et le couvert étaient garantis. Il descendit alors dans le hall de l'auberge en se grattant compulsivement sa barbe naissante, le journal dans une main, le doigt servant de marque-page afin de retrouver l'annonce facilement, et une cigarette allumée dans l'autre main qui laissait derrière son passage de minuscules poussières de cendres allant sans effort aucun atterrir gracieusement sur le sol en bois qui grinçait 2 fois sur 2 sous le poids de son jeune corps quelque peu crapuleux. Au téléphone, la voix aimable d'un homme que nous appellerons Bob lui indiqua que le poste était ouvert et qu'il serait ravi de le voir en personne afin de discuter plus avant des tâches et autres formalités. C'est ainsi que Roberto se retrouva sur le ferry séparant Manhattan de Staten Island, 2 îles que tout oppose,
l'une dressant fièrement ses tours de béton et de verre comme un défi lancé au ciel. « Frappez, frappez donc, nous sommes debout, nous tenons bon, nous sommes New York !» L'avenir leur donnera malheureusement tort, mais je digresse. L'autre île, discrète, de petites rues anonymes bordées de maisons en bois blanc, dont le porche était généralement affublé d'un drapeau américain. La circulation était parsemée, contrairement à l'agitation débordante des rues de Manhattan à la même heure. Armé d'un plan de la ville, Roberto se dirigea vers l'une de ses maisons, où il fut accueilli par un grand homme souriant, celui que l'on appelait Bob, le même qu'il avait eu au téléphone la veille. Il avait le crâne dégarni, mais le reste de ses cheveux tombait en bataille sur ses épaules. L'homme, qu'on appelait Bob, lui souhaita la bienvenue, l'instruisit du but de cette association, une sorte de micro-société où chacun faisait sa part et où la majeure partie de l'argent récolté par leurs diverses activités était réinjecté afin d'acheter d'autres maisons dans le voisinage, pour loger d'autres futurs membres ou ouvrir d'autres commerces. Ils allèrent visiter la boutique, à 2 minutes à pied. Elle se situait dans une de ces maisons légèrement surélevées par rapport au trottoir, nécessitant d'emprunter un escalier aux marches hautes et raides, rendues glissantes par la glace. L'intérieur était un fourbi de vêtements accumulés sur des dressings de fortune, mais la clientèle, précaire pour la plupart, était au rendez-vous. Une jeune femme était à l'accueil, l'air absent, puis, les remarquant, leur adressa un salut avec 2 doigts joints au-dessus des sourcils. Roberto et l'homme qu'on appelait Bob firent le tour, discutèrent des différentes tâches, et ce dernier finit par proposer à Roberto de rester manger avec eux avant de repartir.
« Je vous le dis, American Airlines, ils ont un bâtiment à Salt Lake City, ok ? Donc, imaginons, d'où t'as eu tes lentilles, toi ? Bref, imaginons, une catastrophe survient, hein, je veux dire... Aujourd'hui, on est à l'abri de rien. Une catastrophe aux proportions épiques, vous m'entendez ? J'ai pas peur du mot, mais vous voulez que je vous le dise ? Je vais le dire, une putain de bombe nucléaire ! Eh ben, à Salt Lake City, ils ont un petit complexe souterrain sous ce bâtiment. Ils peuvent y vivre en autosuffisance pendant 10 mois. Tout est recyclé. Pendant que nous, le petit peuple, les laissés pour compte, on crèvera la gueule ouverte. Eux, les gentils cadres d'American putain d'Airlines, les ingénieurs, les employés de bureau, là, avec leurs costumes à 2 balles, eux, ils seront en train d'attendre que le plus dur soit passé en bouffant des conserves et en buvant leur pisse recyclée. Oh, bordel, Alan, on mange, merde, t'es chiant.
C'est dans cette ambiance lunaire que Roberto finit son assiette de taboulé. Ils étaient là, tous, assis en cercle dans un grand living au rez-de-chaussée d'une de ces grandes maisons en bois blanc, leur assiette sur les genoux, devisant, s'apostrophant, mais mangeant surtout, après s'être servi à une table située à l'extrémité de la pièce. Roberto réprima un rot, s'essuya la bouche, posa ses couverts dans son assiette quand, du coin de l'œil, il vit un mouvement. Une porte s'ouvrit à la volée, et un homme de petite taille en surgit en courant, saisit son assiette et ses couverts et repartit à vive allure d'où il était venu. Roberto en resta interdit un moment, puis se leva, prit sa veste et informa l'homme qu'on appelait Bob que, s'il était d'accord, il pouvait se rendre disponible dès le lendemain. L'homme que l'on appelait Bob en fut enchanté avant de l'annoncer aux autres dans la pièce. Ils applaudirent. Roberto entendit le fameux Alan, monsieur American Airlines, demander à un de ses compères
« C'est qui ce gamin qui va crêcher dans ma piole ?»
Roberto n'aimait pas beaucoup Alan, mais il n'avait certainement pas la liberté de se plaindre. Que préférait-il ? Les théories abracadabrantesques d'Alan ou les jugements moqueurs des habitants de la Ferté-Saint-Mignon ? 3. 2 semaines plus tard, Roberto était dans la réserve du dépôt-vente en train de trier un nouvel arrivage de vêtements. 2 fois par semaine, un camion de l'association conduit par Ernesto et Dublin, car celui venait de Dublin, en Irlande, venait livrer un vrac de manteaux, pantalons, chemises, t-shirts, pulls, sous-pulls. Roberto n'a jamais compris ce concept de sous-pull. Autant mettre 2 pulls l'un au-dessus de l'autre, pas vrai ? Chaussures, parfois orphelines, d'autres fois complètement dépareillées, le tout donné par de généreux donateurs. Roberto les réceptionnait sur le quai de fortune improvisé dans l'allée de garage de la maison, et passait ensuite le plus clair de son temps à trier les vêtements, à mettre de côté ceux trop abîmés pour être vendus dans un coin dédié, tandis que les autres se retrouvaient lavés, repassés et mis sur cintre. Ça n'a peut-être l'air de rien dit ainsi, mais Roberto terminait ses journées relativement éreintées et le froid persistant n'aidait pas beaucoup. Un matin, autour de 11h43, heure de New York, Miss « Je mâche mon chewing-gum en te regardant d'un air méprisant » l'interpella depuis l'intérieur du magasin.
« Hé, Frenchy, viens voir deux secondes !»
Roberto termina de repasser une chemise blanc cassé, d'ailleurs, l'était-elle vraiment de cette couleur à la base ? Posa le fer encore brûlant de côté et vint à l'intérieur du magasin, accueilli par une brise de chaleur ô combien réconfortante. Miss « Je mâche mon chewing-gum en te regardant d'un air méprisant » était face à lui, mâchant son chewing-gum et le regardant d'un air méprisant. Elle fit un mouvement de la tête vers l'accueil où une jeune femme se tenait, regardant autour d'elle.
« Elle est de chez toi. Aide-la, tu veux bien ?»
demanda Miss « Je mâche mon chewing-gum en te regardant d'un air méprisant.
Bah, »« Ok, mais moi je suis pas vendeur à la base. Hein. »« Moi non plus, bienvenue au club. »
Elle remit ses écouteurs sur les oreilles, puis se mit à faire ce qu'elle savait le mieux faire, ignorer le monde qui l'entourait.
« Bonjour, » dit Robert. « Je peux vous aider ?»« Oh, vous parlez français, merveilleux !»
La jeune femme avait peu ou prou l'âge de Roberto, qui, par ailleurs, n'avait pas manqué de constater qu'elle était plutôt jolie, avec un je-ne-sais-quoi de malicieux dans l'expression de son visage.
« Je cherche quelque chose à ramener à mes parents, un souvenir, une babiole, n'importe quoi, en fait. Vous pouvez peut-être m'aider ?»«
Je peux essayer, » lui dit Roberto, « mais ici, on est plus un dépôt-vente de vêtements. Je vois pas trop ce que je pourrais vous proposer. »
Bon, vous savez d'où je viens, je pourrais leur amener un rouleau de papier WC et leur dire que c'est américain, ça suffirait pour faire leur journée.
Elle rit d'un rire que Roberto semblait découvrir. Le monde perdait de sa substance et seul ce rire, pas méchant, juste authentique, glissait autour de ses oreilles comme une brise un soir d'été. Qui était cette jeune femme ?
Roberto, lui dit-elle.
Pardon ? Je m'appelle Roberto.
Alors ça c'est drôle, Roberto !
Elle lui tendit la main.
« Roberta, enchantée !»
Interdit, Roberto la lui saisit. Elle avait les mains à peine tièdes, probablement à cause du froid dehors.
« Et est-ce que je peux vous demander de quel patelin vous venez ?»
tenta Roberto.
« Oh, c'est juste un petit bourg, coin canard.
« Attendez, quoi ?
Qu'y a-t-il ?
J'habite... Enfin, j'habitais la Ferté-Saint-Mignon. » Ils se regardèrent comme s'ils se voyaient pour la première fois.
« C'est une blague !» dit-elle.
« Non ! J'allais au collège Aristide Briand à Grand-Duc, j'imagine !
Oui, quelle coïncidence !»
4. Petite interlude. Comme me le fait justement remarquer notre grand régent à la vue de cet échange, nous atteignons durant ce dialogue un sommet de niaiserie tel que l'on pourrait croire à première vue qu'il a été écrit par un écrivain du dimanche, dont c'est probablement le premier roman. Au pire, il ne rencontrera jamais son public, et au mieux, son roman finira en holo dans une gastro, gare astronomique pour le profane. Cependant, veuillez tout de même noter que je ne fais que rapporter des faits, aussi scrupuleusement et minutieusement que possible. Ce dialogue a eu lieu, et je ne suis en aucun cas responsable de sa teneur. Pour toute réclamation, merci de vous adresser à l'ingénieur, créateur des univers, qui est, si l'on en croit la longue lignée des grands régents, responsable et architecte de tous nos faits et gestes dans les moindres détails. Et en vérité, je dois vous avouer que cela me chagrine parfois de m'escrimer à écrire tout ceci, sachant qu'il a été écrit que je le ferai à la virgule près. Oh, mais passons, j'ai ni le temps, ni l'envie, ni le rôle d'ailleurs, de lancer un débat sur le libre arbitre et la destinée. Mais la transition est toute trouvée, car la destinée de Roberto et de Roberta Grognon, pour en revenir à eux, était de se rencontrer et d'échanger de plates banalités afin de plus tard donner naissance à Robert Grognon, notre nouveau grand régent bien-aimé. Suite à sa rencontre déconcertante mais décisive avec Roberta, Roberto ne restera pas à New York City et s'en retournera assez rapidement à la Ferté-Saint-Mignon. Je vous propose néanmoins, pour ceux qui visionnent le présent ouvrage en holo, un montage de mon cru, retraçant les différentes étapes de la relation entre Roberto et Roberta, le tout sur une chanson de Fraquelin Démare et les Axiphones, leur toute dernière d'ailleurs, littéralement si j'ose dire, celle qui marquera la fin de l'histoire de leur groupe, écrite, jouée et enregistrée en même temps, dont le titre est « Je veux bien te donner mon cœur, mais sache que je risque d'en mourir ». Et pour les infortunés ne disposant pas d'une version compatible holo du présent ouvrage, le scénario de la séquence est inclus, si après, je vous en souhaite une bonne lecture. Intérieur magasin associatif jour. Roberto et Roberta s'esclavent. La jeune fille de l'accueil roule des yeux et mâche son chewing-gum de plus belle, trouvant dans un des prospectus disposés sur le comptoir de l'accueil un refuge salutaire. Extérieur, rue de New York. ils marchent côte à côte dans les rues enneigées. Elle pointe quelque chose du doigt avec étonnement et en parle avec ferveur. Il rit en regardant dans la même direction qu'elle. Intérieur, diner. Ils sont attablés dans un diner, face à face. Elle raconte beaucoup de choses. Il écoute avec le sourire, réagit à ce qu'elle dit. Une serveuse d'un certain âge, aux traits tirés et au maquillage trop prononcé, vient avec une carafe de café les resservir. Extérieur nuit, rue de New York. Ils s'embrassent pour la première fois, avec timidité. Un homme hirsute et débraillé, à la peau crasseuse et à qui il manque une dent, visiblement, passe à côté d'eux, s'arrête, interloqué d'une manière excessive, presque comique, et se rapproche d'eux bouche bée, tout en les regardant fixement, comme s'il voyait un couple s'embrasser pour la première fois. Intérieur jour, aéroport. Roberto et Roberta s'enlacent. Elle jette ensuite un coup d'œil au panneau des départs, puis embrasse Roberto une dernière fois avant de partir, les yeux pleins de regrets. Roberto la regarde s'éloigner, se retourne pour partir, fait quelques pas, puis fait volte-face et court vers Roberta en, supposons-nous, criant son nom. Elle se retourne stupéfaite. Il lui parle vite, fait des gestes rapides. Elle acquiesce, elle sourit, il s'enlace. Extérieur, Staten Island. Roberto fait un signe de revoir aux membres de l'association réunis côte à côte. L'homme qu'on appelait Bob répond à son salut. Alan fait un signe grossier de la main qui est flouté. Roberto s'en va hors champ, tandis que presque tous agitent la main. Extérieur, campagne française. Un bus roule dans la campagne. On voit par la fenêtre Roberto grognon, le sourire aux lèvres. Le bus s'éloigne et au premier plan, un panneau apparaît, marquant l'entrée de la ville de La Ferté-Saint-Mignon. Extérieur, La Ferté-Saint-Mignon. Roberto descend du bus avec ses bagages. Il regarde autour de lui et, se retournant, voit Roberta qui lui saute dans les bras. Vue sur calendrier. Les jours défilent. Intérieur, maternité. Roberto ouvre une porte et y rentrent leurs parents respectifs à Roberta et à lui. Roberta est allongée dans un lit, lumineuse, un petit bébé dans les bras. Tout le monde est heureux, fondu au noir sur le visage du nouveau-né, endormi.
J'ai bien donné mon cœur, mais sache que je risque d'en mourir.
Oh, on a vraiment fait quelqu'un. Appelez la police.
Mais non, pas la police, sans doute une ambulance, ou une ambulance, des pompiers, je sais pas, n'importe quoi.
On est dans la merde, les gars, on est dans la merde, oh mon
Dieu. Ah, calme-toi.
Ouais, calme-toi.
Il est vraiment crevé, il a vraiment arraché son cœur, ce trou du cul.
Mais du coup, c'est fini le groupe.
Ah oui, c'est fini, oui.
Robert s'éloigna du souvenir.
C'est vachement étrange comme sensation, ça.
Oui, ça gratte un peu, lui dis-je.
Hein ?
Oui, c'est un des mauvais côtés de notre exploration mentale.
Hein ? Comment ça, hein ? Vous voulez dire qu'il y en a plusieurs ?
Je vous l'avais pas mentionné ?
Alors non, figurez-vous, il semblerait que vous aviez omis ce détail. N'y voyez aucune animosité de ma part, mais il me semble vous avoir demandé s'il y avait des risques.
Je vous ai répondu qu'il n'y avait ni danger ni douleur.
Vous êtes bien sûr de vous ?
Grand régent, Robert,
mon travail est de reporter mot pour mot notre conversation, si je peux me permettre de le rappeler, à votre grandeur.
Ouais. Bah, précisez dans ce cas s'il y a des risques, disons, d'inconfort à venir.
Oh oui, tout un tas.
Tout un tas.
Bah, certains peuvent survenir, d'autres pas. Ça va dépendre de notre voyage au fin fond de votre conscience, grand régent.
Robert.
Bien, si nous en avons fini avec cet extrait de votre mémoire génétique, je vous propose de passer à votre vie.
Et on peut remonter jusqu'où avec cette mémoire génétique ? Genre, on peut visiter la mémoire d'un arrière-arrière-arrière-grand-aïeul, par exemple ?
Bah, si cette mémoire est disponible, j'imagine que oui. Robert regarda l'entremêlement de racines courant sous nos pieds, certaines pas plus épaisses qu'un cheveu.
Il y a donc... toute ma lignée. Et je pourrais voir leur vie, leurs souvenirs,
dit Robert d'un air songeur. Il tourna son regard vers moi, brusquement et avec une détermination prononcée.
Mais en fait, j'ai la flemme. Passons à ma vie à moi. Allez, ouvrez la marche.
6. Il est généralement un élément déclencheur dans l'enfance d'un individu qui façonne de manière durable la personnalité de ce ou cette dernière. À cette époque où cette jeune personne est en pleine construction, son cerveau absorbant chaque stimuli avec la même ferveur qu'un alcoolique militant, cet événement, qui va à jamais marquer cette psyché si particulière, se passe pour Robert Brugnon, notre grand régent bien-aimé, pendant les vacances d'été. Alors, c'est une saison propice à la chaleur et aux longues journées joyeuses sur l'hémisphère nord de la planète dite « Terre », et je mets des gros guillemets. Durant une soixantaine de cycles jour-nuit, nulle besogne à accomplir, nulle éducation à intégrer, et chaque jour est une aventure fleurant bon les effluves du champ de blé mûr d'à côté, ainsi que le bitume brûlant de l'impasse des lilas. Robert Brugnon habitait au numéro 4, deuxième maison à gauche, en rentrant dans l'impasse. La première était celle de M. et Mme Brugnon, la troisième celle de M. et Mme Trognon, venaient ensuite au fond de l'impasse les Moignons, puis les Chignons, et sur le côté droit de l'impasse, les Bourguignons, et pour finir, les Troufignons. Cet après-midi d'été, le petit Robert sort de sa maison, bien décidé à en découdre avec la vie, et à prouver que du haut de ses 5 ans, il peut conquérir le cœur d'Amanda Brugnon, de 3 ans son aîné. Pour cela, il a appris à faire du vélo, sans les roulettes, avec l'aide d'un ami alcoolique de ses parents, qui lors d'un apéro tardif s'est proposé d'enseigner au petit Robert l'art mystérieux et ancestral de l'équilibre sur un véhicule à 2 roues en mouvement. Vers 10 heures du soir, alors que Robert ne parvenait toujours pas à trouver ce mince équilibre pouvant le prémunir d'une chute certaine, il fut soudain frappé par la Providence. Et par la Providence, nous parlons ici d'invectives et de menaces, toujours teintées d'alcool, de la part de cet ami de la famille qui perdait sa patience tandis que son taux d'alcoolémie grimpait. Robert constatera dans le futur que cette façon de faire, c'est-à-dire de distiller peur, menaces et reproches afin d'obtenir des résultats rapides, est en définitive une méthode sans âge que l'on retrouve notamment dans le monde du travail et qui fait la joie des chefs d'étage, adeptes inconditionnels du micromanagement, autrement nommé harcèlement professionnel. Alors certes, bien que les résultats soient là, ils sont souvent bruts et mal dégrossis, ce qui les rend parfois utiles sur le moment, mais rarement sur le long terme. Et c'est fort de cette nouvelle expérience, bien qu'imparfaite, que Robert se décida à, disons-le franchement, draguer la voisine d'à côté. Il sortit du garage familial son BMX tout-terrain, blanc et rouge, qu'il avait pris le soin de personnaliser avec un autocollant de Pif Gadget collé sur le cadre et 2 cartes à jouer fixées au niveau des rayons de la roue arrière dans le but de faire un maximum de bruit, persuadé que la jante féminine était sensible au bruit, surtout s'il est fort et répétitif. Physiologiquement, oui, elles sont sensibles au bruit. De là à affirmer que le bruit, car c'est de cela qu'on parle, de bruit brut, est moteur de sentiments et d'attirance, non. Là-dessus, Robert, comme bon nombre de mâles de son espèce, se mettait le doigt dans l'œil jusqu'à la rotule, et ce, peu importe l'âge. Amanda était dans le jardin de sa maison, qui donnait sur l'impasse, et jouait avec sa petite sœur. Robert l'appela et lui adressa un grand salut avec son bras, l'autre bras tenant fermement le guidon du tout-terrain, à la manière d'un cow-boy qui tiendrait un taureau par une de ses cornes. Amanda lui sourit poliment et salua de la main également, avant de reporter son attention sur sa petite sœur.
« Maintenant, je sais faire du vélo, regarde bien, tu vas voir !»
clama fièrement Robert. Notez cette façon amusante qu'ont les enfants de crier de façon monocorde jusqu'à ce qu'essoufflement s'en suive, faisant fi de toute forme de ponctuation. Vaguement curieuse, Amanda et sa petite sœur fixèrent Robert, le regardèrent enfourcher son vélo, rouler vers le fond de l'impasse, tenter sa tactique du dérapage freiné, sans grand succès. Il replaça son vélo dans l'axe de l'impasse et frotta du pied en vocalisant un bruit de moteur. Brum, brum. Puis il s'élança. Mollement d'abord. Il prit de la vitesse et se vit fendre l'air, chaque poussée sur chacune des pédales, l'emmenant dans un monde fait d'adrénaline, de vitesse et de masculinité vaguement toxique. Ce qu'il ignorait, mais qui n'était pas pour lui déplaire à ce moment. Il voulait, devait, arriver à l'entrée de l'impasse le plus vite possible afin de freiner juste devant la maison d'Amanda. Elle serait tellement impressionnée qu'elle serait sa petite copine, ça c'est sûr. Le vent soufflait sur son visage, passa dans ses cheveux, son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Il vit la fin de l'impasse se rapprocher très rapidement et se décida alors à freiner. Robert actionna un seul frein, au lieu des deux. Pourquoi ? Parce que Robert est droitier, et le frein de droite correspondait à celui de la roue avant. À peine l'eut-il donc enfoncé, que le monde prit soudain une toute autre tournure. La gravité n'avait plus vraiment de sens. Le paysage pivotait devant lui comme au ralenti. Le sol devenait un mur, et bientôt un plafond sur lequel il alla frotter son front. Son vélo, quant à lui, alla s'écraser un peu plus avant, et le monde reprit enfin sa place. Robert se releva difficilement, les mains douloureuses et constellées de gravier. Il porta sa main à son front chaud et palpitant. Amanda, qui le regardait depuis son jardin, porta la main à sa bouche et cacha les yeux de sa petite sœur avant d'appeler ses parents, car Robert s'était ouvert le front. Rien d'incroyable, mais il saignait suffisamment pour s'apercevoir que ses doigts, qui venaient d'effleurer instinctivement sa blessure, étaient d'un rouge vif, ce qui l'effraya plus que de raison. La conséquence de ce malheureux accident sur Robert dépassait de loin la simple douleur physique et les quelques points de suture nécessaires pour refermer la plaie béante sur son front. C'était comme si, au moment de sa chute, une partie de son insouciance s'était évaporée, laissant derrière elle un voile de prudence qui allait désormais teinter chaque décision, chaque action. Cette chute ne fut pas qu'un simple incident, mais le point de bascule d'une transformation intérieure. Au fil des jours, la blessure de Robert cicatrisa, mais l'empreinte psychologique de cet événement malheureux demeura indélébile. Chaque rire moqueur, chaque regard en coin de ses camarades venait rappeler à Robert l'humiliation et la douleur de sa chute. Et petit à petit, jour après jour, mois après mois, année après année, Robert s'éloigna de plus en plus des activités qu'il jugeait risquées, à calculer chacun de ses mouvements avec une prudence qui frisait l'excès. L'adolescent qui aimait autrefois l'aventure et la spontanéité se métamorphosa en un jeune homme qui mesurait le pour et le contre de chaque décision, fût-elle anodine. Ses parents, nos chers Roberto et Roberta, bons vivants jusqu'à la lie, observèrent avec inquiétude ce changement progressif. Ils tentèrent de l'encourager, à prendre des risques, à explorer de nouvelles passions, mais Robert était devenu imperméable à leurs conseils, muré dans sa quête de sécurité et de prévisibilité. Lorsqu'il annonça, avec une détermination tranquille, son intention de devenir comptable, ils comprirent que le garçon intrépide qu'ils connaissaient avait fait place à un homme qui voyait dans les chiffres et les bilans une forme de réconfort, un monde prévisible où les risques pouvaient être calculés et maîtrisés. Cette décision ne fut pas seulement un choix de carrière pour Robert, mais l'acceptation d'une identité forgée par les conséquences d'une chute. Un chemin qu'il choisit non pas par défaut, mais comme un refuge contre l'incertitude d'un monde trop souvent imprévisible. Si vous demandiez à Robert quel avantage y a-t-il à être comptable, il vous répondrait dans un premier temps que c'est un métier qui est toujours demandé et qui est très réglementé. Les chiffres ne mentent jamais. Il est donc impossible, par définition, d'être déçu par eux. Et que le profane se garde d'y voir un synonyme d'ennui. En effet, s'il y a une irrégularité, alors Robert enfile sa casquette fictive d'investigateur à la recherche de quelque indice qui permettrait de résoudre cette enquête en milieu comptable. Qui plus est, il y a quelques éléments de vocabulaire qui laissent un peu de place à la rêverie dont il est friand. Par exemple, lorsqu'il doit consulter le « grand livre », qui n'est autre que l'ensemble des comptes d'une entreprise, il se voit face à un vieux grimoire poussiéreux, détenteur de la vérité universelle, sauf que la vérité en question est juste l'équilibre parfait entre rentrée et dépenses. Maintenant, si vous deviez passer par la Ferté-Saint-Mignon, que vous traîniez vos guenilles dans la zone d'activité commerciale jouxtant la petite banlieue fertoise, que vous leviez les yeux au niveau des fenêtres de l'entresol de la société Capigem située au 9 rue Victor Hugo, qui est réputée dans la région pour être la seule entreprise productrice de joints d'étanchéité pour conduits d'évacuation de climatiseurs de morgue, vous verriez, en ce soir d'hiver, mise en valeur par un mélange peu flatteur de sa lampe de bureau et de son écran cathodique d'ordinateur de bureau, la chevelure en déclin précoce de Robert Grognon, comptable et futur grand régent galactique, qui, ne souhaitant pas partir du travail en laissant une tâche inachevée, s'escrime à finaliser les bulletins de paye du mois en cours et de reporter le tout sur son tableau comptable. À l'issue, il en fera deux sauvegardes, une sur disquette, l'autre sur un lecteur à bande magnétique. Enfin, pour la beauté du geste, il mettra à jour à la main les différentes écritures dans un grand livre papier qui n'a pas vraiment lieu d'être, mais ça le rassure de procéder ainsi. C'est un soir de décembre, le dernier mois de l'année terrestre, et les premiers flocons font leur apparition, annonciateurs de changements saisonniers et de la fin d'une époque pour Robert Grognon. Contre toute attente, la météo, cette science de la prédiction du climat, avait prévu un temps froid et dégagé, mais elle s'était fourvoyée. Une fois n'est pas coutume, diront les mauvaises langues. La neige commençait en effet à s'accumuler sur les trottoirs, et les travailleurs qui rentraient chez eux se mettre au chaud, pris au dépourvu, roulèrent prudemment, tandis que les quelques piétons qui n'avaient d'autre solution que d'arpenter les trottoirs fertois firent de chaque pas une aventure où tout peut arriver. Pour l'anecdote, il est des mondes où, culturellement, « tout peut arriver » signifie que tout peut vraiment arriver. Le Grand Institut des Statistiques a relevé par exemple que sur Dobra C, une petite planète faisant partie d'un système double, il est fréquent, bien qu'improbable pourtant, de glisser sur des restes de kebab si l'on a les yeux rivés vers le ciel. Cela s'explique par la propension des habitants de Dobra C à consommer des kebabs en quantité industrielle, ce qui mène à pas mal de gâchis, certes, mais aussi à une compression de leur conduit respiratoire du fait de leur surcharge pondérale subite. Afin de ne pas suffoquer et dans le but d'aligner tous leurs tubes internes pour que l'air entre et ressorte sans complication, ils se retrouvent à se déplacer en levant la tête vers le ciel. Cette absence de visuel immédiat sur le sol environnant les amène à rater les poubelles lorsqu'ils jettent leurs restes de kebab et à glisser sur ces derniers qui jonchent littéralement le sol de la planète. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Eh bien, c'est une excellente question à laquelle j'ai pas la réponse, malheureusement. Un soir d'hiver, donc. Il se fait maintenant particulièrement tard, et Robert regarde par la fenêtre la neige, ce péril blanc qui, derrière ses atours ludiques et séduisants, est surtout promesse d'accidents, d'engelures et de fractures en tout genre. « Mais alors, Robert, mon vieux, vous êtes encore là ?» Alphonse Robichu, le président de la Capigem. « Vous faites des heures sup ?»«
Ah non, grand Dieu, non, monsieur Robichu, j'attends mes parents qui doivent venir me chercher. »«
Ah, n'y comptez pas, mon petit, toute la descente est gelée. J'ai eu Tribert au téléphone, il n'y a rien qui monte, mais tout qui descend, par contre, faut faire gaffe. Hein. »
Tribert était le chauffeur-livreur de la Capigem, une personne fiable, ponctuelle, comme Robert les appréciait. Certes, pas au point d'aller boire un verre avec, mais suffisamment pour que son opinion ait une véritable valeur ajoutée.
Vous voulez pas que je dépose, Robert ?
Problématique. Monsieur Robichu, 67 ans, propose à Robert de le déposer chez lui. Contexte, grand froid, neige qui se fait abondante, l'unique route montant à la zone d'activité gelée et qui sait, peut-être d'autres sentiers également. Monsieur Robichu, 67 ans, était bien connu pour avoir subi un double pontage coronarien, ceci dû à son statut d'épicurien confirmé. Cela ne l'empêchait pas de sortir à midi faire de bonnes bouffes arrosées, le conduisant régulièrement à ronfler dans son bureau comme ce fut le cas ce jour. Il était donc pertinent pour Robert de supposer que le taux d'alcoolémie de Monsieur Robichu est suffisamment haut pour filer le vertige à une bouteille de vodka et que ses réflexes seraient ralentis tandis que ses décisions, elles, seraient hasardeuses. Sur la base de ces éléments, Robert élabora diverses conclusions dont l'issue de chacune était d'ordre funeste. C'était là un des problèmes de Robert Grognon. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, il n'y a que les pires.
Je vous remercie, monsieur Robichu, mais je vais attendre un peu, je pense.
Ah, comme vous voudrez, Robert. Vous avez les clés ? Alors pensez bien à verrouiller et à mettre l'alarme en partant. Hein.
Bien sûr, monsieur. Bonne soirée, monsieur.
Ouais, bon courage, gamin.
Robert observa Alphonse Robichu sortir, patiner à un endroit en manquant de tomber, puis se diriger vers sa berline. Il l'alluma, fit une manœuvre et s'engagea sur la route avant de disparaître au tournant. Robert tendit l'oreille et guetta un bruit de tôle froissée. Rien. Il attendit encore quelques minutes, puis, le pas lassé, retourna à son bureau, décrocha le combiné et composa le numéro de ses parents. Sa mère, Roberta, décrocha.
« Allô ? Coucou maman, c'est moi ?»
« Oh, Robert, as-tu vu cette neige ? C'est magnifique, non ? Dis-moi, on passe toujours te chercher ?»«
Oh non, laissez tomber, vous n'y arriverez pas, c'est complètement gelé. »«
Oh, mais comment tu vas faire ?»«
Oh, j'ai tout ce qu'il me faut, je vais aller prendre à manger à la machine et puis j'irai piquer un somme en salle de pause. »«
Tu es sûr ? Ton père me dit te dire qu'il peut mettre les chaînes aux pneus. »«
Non, vous embêtez pas, je vous appelle demain. »«
Comme tu veux, mon fils. »«
Ok. »«
Robert ?
Oui, maman. »
Prends soin de toi, d'accord ?
Oui, maman.
Hey, dis-lui que je l'embrasse !
Fit une voix masculine étouffée.
Ton père dit qu'il t'embrasse.
Moi aussi.
Bisous.
Bisous.
Telle fut la dernière conversation que Robert eut avec ses parents. Telle fut la dernière conversation qu'il eut avec des humains pure souche, tout court. Il raccrocha, se jeta en arrière sur sa chaise de bureau, regarda autour de lui en soufflant et en tapant alternativement du plat de ses mains sur ses cuisses. Puis, avec une impulsion soudaine, il se dirigea vers le distributeur de sandwichs, ou distributeur de conneries, comme il aimait à l'appeler. À sa disposition et contre un peu de monnaie, lui était proposé sandwich triangle, soda, sucrerie. Il opta pour un sandwich poulet mayonnaise et composa le 9 sur le pavé numérique de la machine. Celle-ci ne réagit pas. D'ordinaire, elle aurait affiché un prix, un montant à régler contre quelque espèce sonnante et trébuchante, mais là, elle se contenta d'afficher le numéro 9. Robert regarda la machine, soupira, puis essaya d'autres chiffres. La machine restait bloquée sur 9. Il la contourna, chercha le câble d'alimentation et le suivit jusqu'à la prise de courant, puis débrancha ce dernier, ce qui eut pour effet de couper la lumière et le ronronnement de l'appareil. Il attendit un peu, seul et accroupi dans le coin de la salle de pause de la Capigem, probablement même le seul être humain encore présent sur la zone d'activité de la Ferté-Saint-Mignon. Puis il rebrancha la prise. Une fois debout sur ses pieds, il fit de nouveau face au distributeur. 9. Il fronça des sourcils. Il appuya sur toutes les touches en pensant tout au fond de lui que c'était bien inutile, comme si le hasard d'une série de pressions allait tout d'un coup débloquer la situation. Le hasard, ou pas, fit mieux que ça. La façade de la machine émit un clic qui s'entr'ouvrit comme une porte le ferait. Surpris, il recula.
« Oh !» pensa-t-il. « Comment je vais expliquer ça, monsieur Robichu, moi ?»
Robert, n'écoutant que son honnêteté, se rendit à son bureau, se saisit d'un post-it sur lequel il griffonna qu'il y avait un souci avec la machine, qu'il se tenait disponible pour en discuter. Il indiqua également l'heure et la date au cas où, puis colla le post-it sur le bord de l'écran de monsieur Robichu. Il laissa également de la petite monnaie correspondant au montant exact du prix du sandwich, à savoir 4,50 €. Il revint à la machine, l'esprit et le porte-monnaie plus légers, glissa ses doigts dans l'ouverture créée par la façade de la machine et la tira vers lui. En lieu et place d'un accès facilité à des denrées alimentaires aux valeurs nutritionnelles discutables, Robert fit face à un couloir semblant taillé dans le marbre, long d'une dizaine de mètres, qui bifurquait mollement vers la droite. Il resta interdit, bouche bée. Puis il referma la porte, doucement, vit les denrées de l'autre côté de la vitre, et rouvrit la porte de nouveau. Toujours ce même couloir. La surprise passée, il l'inspecta du regard.
« Du marbre » murmura-t-il dans sa barbe inexistante.
Il referma la porte de nouveau, recula, sans quitter la machine du regard, qui, de son point de vue, venait d'arborer un atout inquiétant. Qu'est-ce qu'une pièce secrète pouvait bien faire au sein de la société? Si M. Robichu avait besoin d'une pièce secrète, pourquoi pas chez lui? Et que cachait-il là-dedans? Robert se rapprocha du distributeur et rouvrit la porte d'un coup. Le couloir n'avait pas bougé. Quelque chose l'intrigua. Toujours en gardant un œil sur le distributeur, il se dirigea vers la porte de la salle de pause située juste à côté, sur le même mur. Il passa la tête de l'autre côté et vit le couloir menant à son bureau et à celui de M. Robichu plus loin. Sa raison vacilla doucement. Les lois de la physique imposent que ce couloir de marbre devrait traverser perpendiculairement le couloir réel, celui de la Capigem. Or, pas du tout. Il se mit dans l'idée que ce devait être une illusion d'optique, une blague de mauvais goût, mais sacrément élaborée, et il allait le prouver, grand Dieu. Il s'approcha du soi-disant couloir de marbre et tendit le bras, non sans crainte, s'attendant à recevoir une décharge de ce qu'il supposait être un écran de télévision 3D super élaboré. Mais il n'en était rien. Il avança son bras plus avant, en gardant un œil sur la salle de pause, fit une rapide évaluation. Son bras était enfoncé plus loin que le mur. Techniquement, sa main devait déboucher dans le couloir d'à côté. Il retira son bras, regarda autour de lui et se saisit d'une chaise et la jeta chichement à l'intérieur du distributeur. Elle rebondit avec fracas avant de s'immobiliser quelques mètres plus loin. Robert sortit à l'extérieur de la salle de pause et rien. Rien dans le vrai couloir. Les choses prenaient une tournure inquiétante, mais la situation était tellement déstabilisante que Robert, pourtant habitué à extrapoler et à théoriser sur toute situation pouvant atteindre à sa personne, n'en fit rien et fit quelques pas dans le couloir où il prit la chaise dans l'intention de la remettre dans la salle de pause. Ce faisant, en se retournant, il fit face à un mur de marbre à quelques centimètres de son nez.
« Oh non, 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 non !»
s'écria-t-il. L'adrénaline le frappa d'un coup. Il sentit une énorme sueur froide parcourir son corps alors que son cœur commençait à s'emballer. Il tapa sur le mur, qui n'émit au mieux qu'un bruit sourd. Robert redoubla d'efforts.
« Eh oh !»
cria-t-il.
« Je suis coincé ! À l'aide !»
Il tâtonna les jointures dans l'espoir de trouver une semi-ouverture, mais rien à faire. Ce mur semblait faire partie intégrante du couloir. Là et désespéré, il recula, haletant, avant de faire un demi-tour prudent vers le couloir et vers la chaise, seul lien tangible avec la réalité qu'il venait subitement de quitter. Il empoigna cette dernière, puis la tint face à lui, les quatre pieds en avant, et marcha prudemment, silencieusement au début, et puis un peu moins, car ne venait-il pas de faire un raffut pas possible à l'instant ? Le couloir s'incurvait lentement vers la droite et redevint droit de nouveau. Au bout, environ 30 mètres, semblait se trouver la sortie, qui débouchait sur l'extérieur, à en croire la lumière blanche qui se déversait à l'intérieur. Pourtant, ne faisait-il pas nuit en ce moment ? Robert Grognon garda un pas prudent, stable, constant, se rapprochant petit à petit d'une réponse possible, ou du moins l'espérait-il. Il fut suffisamment proche de la sortie pour que sa vision s'adaptât à l'éclairage extérieur, et une fois dehors, il fut soulagé d'avoir pris la chaise avec lui, car ses jambes se dérobèrent devant le spectacle improbable qui s'offrait à lui. Ceci est la fin du chapitre 2 de la biographie de Robert Grognon, de comptable à grand régent galactique. Ce podcast est disponible et hébergé sur PodCloud à l'adresse robertgrognon.lepodcast.fr. Il est également disponible dans toutes les bonnes crèmeries telles que iTunes, Spotify, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles si ça vous plaît, car vu la quantité d'étoiles qu'il y a dans l'univers, ce serait vraiment dommage de se priver. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, @RobertGrognon. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour la suite des aventures de notre grand régent galactique préféré.